Voilà, donc nous avions commencé à considérer rapidement les premiers jours de la Semaine Sainte. Bon, il est sûr que tout cela est rapide, mais j'essaie de vous donner un peu un guide, si vous voulez, un fil directeur, pour vous y retrouver, surtout un petit peu dans la succession des événements. Si vous prenez les quatre évangiles, les trois synoptiques et Saint Jean, parfois on a du mal à voir exactement quel est l'événement qui suit l'autre, comment ça s'enchaîne, tout cela, et c'est pas toujours très très facile. Les commentateurs, les exégètes, eux-mêmes ne sont pas tous d'accord pour la succession des événements. Alors, donc on essaie un petit peu de s'y retrouver, mais ma foi, même si tel ou tel événement n'est pas exactement à sa place dans ce que je vous dis, c'est pas grave. Ça, de toute façon, ça marche quand même. Quoi. C'est pas très. Il est sûr que c'est pas très très simple. Hein, mais rappelez-vous quand même que vous avez dans les quatre évangélistes, vous en avez deux qui ont été témoins directs des événements. Ce sont les deux apôtres, hein, Saint Jean, bien sûr, hein, témoin peut-être privilégié. Et puis Saint Matthieu, alors que Saint Luc et Saint Marc n'étaient pas nécessairement témoins de tous les événements qu'ils racontent. Hein. Ils rapportent un peu ce que Saint Pierre, ce que Saint Paul leur ont dit, etc. Oui, ou ce que les autres apôtres leur ont dit. Mais, bon, donc c'est pourquoi, oui, chacun écrivant son évangile en plus avec une intention un petit peu différente, oui, et Saint Jean en plus, écrivant son évangile l'an dernier, longtemps après les trois premiers, oui, cela peut expliquer qu'il y ait parfois des choses qui sont dans certains évangiles et qui ne sont pas dans tel autre évangile, oui, parce que Saint Jean n'éprouve pas le besoin, par exemple, de répéter ce que les autres ont déjà dit, oui, mais il complète. Oui, c'est pourquoi Saint Jean, qui est peut-être plus mystique, plus intérieur que les autres, nous rapporte parfois des très beaux discours de notre Seigneur qui ne sont pas rapportés par les autres apôtres, etc. Oui. Bon, cela dit, il n'est pas toujours très très facile de s'y retrouver quand même, et je ne vous garantis pas non plus, malheureusement, que l'ordre que je vous indique soit exactement celui qui a été suivi par les événements. Mais enfin, je pense que dans tout cela, nous nous y retrouvons quand même. Cela nous permet quand même de suivre notre Seigneur dans ces grandes journées, ces grands événements qui sont les plus grands de l'histoire du monde. Vous pouvez prendre tous les livres, les bibliothèques, les journaux, tout ce que vous voudrez. Tout ça, c'est de la rigolade. Tout ça, ça n'a pas grand intérêt à côté de ces quelques chapitres des évangiles qui nous racontent cette Semaine Sainte. Et tout spécialement, bien sûr, ces trois jours saints, le jeudi, le vendredi, et le samedi, et le dimanche aussi, bien sûr, enfin, la nuit du samedi au dimanche. Bon, ce sont là les jours vraiment fondamentaux, capitaux dans l'histoire des hommes. Ce sont eux qui décident tout dans l'histoire des hommes, après la création. Et c'est là que se décide finalement notre sort à tous, notre vie éternelle. Si ces trois jours sont vrais, si effectivement tout ce qui s'est passé est vrai, eh bien, il dirait notre éternité, elle est radicalement différente. Bien de ce qu'elle peut être si ces trois jours n'ont pas existé. Il est sûr que s'il n'y a pas eu le jeudi saint, le vendredi saint, c'est fini. Il n'y a pas la peine de se casser la tête. Ça, nous sommes perdus, tous, irrémédiablement. Et grâce à Dieu, il y a eu le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche de Pâques. Et donc cela mérite justement de considérer un petit peu ces choses. Alors bien sûr, ce sera rapide, parce que là, il y a des choses qui sont extraordinaires, qu'il est difficile de commenter, d'expliquer. C'est des choses qu'il faut essayer plutôt de considérer, ouais, de méditer un petit peu chacun d'entre nous. Ouais, ces événements, ces paroles, ces gestes de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de choses ne sont pas dites par les évangiles, mais nous pouvons les deviner, nous pouvons les comprendre un peu. Si nous avons compris qui est Jésus-Christ, si nous avons compris pourquoi il s'est incarné, pourquoi il vit ces jours-là, il y a une foule de choses qu'on ne peut pas dire, mais que je dirais que nos âmes peuvent peut-être comprendre, réaliser. Ça, c'est. Il faut laisser un peu de place justement pour la méditation, l'adoration, le mystère. Ça, c'est. Voilà. Donc nous arrivons à ce jeudi saint. Nous avions laissé jeudi, mercredi, notre Seigneur à Béthanie, où il vit là ses dernières heures, ses derniers. Ces dernières journées de paix, de tranquillité au milieu de ses amis. Et il est probable également que la journée du jeudi, le jeudi, probablement notre Seigneur a passé encore la plus grande partie de cette journée également à Béthanie. Bon, alors, il y a un problème de datation, nous pourrions peut-être en parler très, très rapidement, hein, si vous prenez les évangiles. Et chacun des évangélistes indique ce jour d'une façon un petit peu... Bon, les trois synoptiques vous disent, l'appelle ce jour le premier jour des azimes. Saint Marc également, le premier jour des azimes, où l'on immolait la Pâque. Et Saint Luc également, cependant, arriva le jour des azimes, où il fallait immoler la Pâque. Ouais. Alors que Saint Jean, lui, nous parlera ensuite, dira, avant la fête de Pâques, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, après avoir aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Alors, quel est exactement ce premier jour des azimes? Il faut faire la liaison, donc les azimes, c'est ce que c'est le pain azime. Oui, tout le monde connaît un petit peu le pain azime, c'est du pain qui n'est pas levé, tout simplement, du pain sans levain. C'est le pain avec lequel nous faisons les hosties. Voilà, du pain azime, eh bien, ce sont le pain avec lequel sont faites les hosties. Bon, donc ces hosties que vous recevez à la communion sont faites avec du pain azime. Oui, ce pain azime, c'était le pain qui était prescrit pour la célébration de la Pâque, en souvenir justement de la Pâque, lorsque les Hébreux avaient dû fuir l'Égypte sans avoir le temps, eh bien, de faire lever le pain qui cuisait. Donc, ils ont cuit du pain sans levain. Le pain n'a pas pu lever, donc c'était le pain azime, en souvenir de cette Pâque. Voyez. Donc, ce premier jour des azimes, eh bien, c'est ce jeudi. Mais alors, il faut se souvenir que chez les Juifs, se souvenir ou savoir, pour ceux qui ne le sauraient pas, que chez les Juifs, chez les Hébreux, le jour se compte à la tombée de la nuit. Alors c'est là que ça complique un petit peu les choses, vous voyez. Le jour commence à la tombée de la nuit. Le jour commence donc le soir, si vous voulez. Bon, la journée commence le soir. Donc c'est lorsque la nuit tombe, eh bien, que l'on compte le jour qui commence. Vous voyez. Donc le jour des azimes, en fait, commence le jeudi soir, à la tombée de la nuit. Vous voyez. C'est le jour des azimes. Et le jour de Pâques, ou le jour de Sabbat, le grand Sabbat, eh bien, sera en fait, bon, la Pâque juive, attention, cette Pâque qu'il fallait célébrer, oui, eh bien, ce sera le vendredi. Donc, commencera le vendredi soir au samedi. Hein. Vous voyez, cette Pâque, vous voyez, ce grand Sabbat commencera le vendredi soir et le samedi. Et donc, la journée du 14 Nisan, eh bien, c'est cette journée qui commence ce soir, au soir du jeudi. Et c'est à ce moment-là, sans doute, eh bien, que notre Seigneur, justement, après avoir passé la journée avec ses apôtres et ses amis à Béthanie, envoie deux de ses apôtres, Pierre et Jean. Ouais, alors, cela est très, très révélateur, ouais. Même peut nous faire comprendre pourquoi, oui, nous pouvons comprendre pourquoi notre Seigneur a attendu le soir, oui, pour envoyer Pierre et Jean à Jérusalem pour préparer la Pâque. Rappelez-vous qu'il doit être livré, il sait qu'il doit l'être, il sait qu'il va l'être, oui. Mais il veut, avant d'être livré, il veut quand même célébrer la Pâque avec ses apôtres. Donc il ne veut pas être livré trop tôt quand même. Oui. Donc, s'il avait envoyé les apôtres, par exemple, le matin, pour préparer le cénacle, préparer la Pâque, bon, eh bien, je dirais, la mèche aurait pu être vendue un peu trop tôt, oui. Et à ce moment-là, Judas aurait pu le livrer trop tôt. Et Judas, connaissant le lieu où devait avoir lieu la Pâque, à ce moment-là, aurait eu le temps, oui, d'aller prévenir le Sanhédrin et dire, attention, voilà, eh bien, je vais vous conduire et, donc, peut-être empêcher la célébration de la Pâque est donc l'institution de la messe, de l'Eucharistie, du sacerdoce, etc. C'est pourquoi notre Seigneur a préféré attendre. Et les choses vont se dérouler très vite à ce moment-là. Justement, les apôtres vont partir et tout préparer, et la Pâque va commencer tout de suite, aussitôt après, sans délai. Ce qui fait que le pauvre Judas, il n'aura pas le temps, si vous voulez, de prévenir le Sanhédrin, les Juifs, mais il aura le temps, bon, bien sûr, de les prévenir, mais pour plus tard, ce qui fait que bien la scène pourra se dérouler sans difficulté. Et autre signe, justement, de l'intention de notre Seigneur de garder le secret le plus longtemps possible, bien, précisément, c'est qu'il n'envoie pas Judas. Normalement, il aurait dû envoyer Judas. Judas, qui était un peu l'économe, là, ou l'intendant, c'est lui qui organisait toutes les affaires de la petite troupe, là. Donc, en principe, c'est Judas qui aurait dû être envoyé. Voilà, tu vas aller en ville, préparer ceci, cela. Non, il ne dit rien à Judas. Mais il envoie Pierre et Jean, qui sont les deux préférés. Pierre, bien sûr, Saint-Pierre, le prince des apôtres, celui qui a reçu la promesse du pontificat, du souverain pontificat. Et puis Saint-Jean, hein, l'apôtre bien-aimé, celui que notre Seigneur préférait aux autres. Et c'est ces deux-là, donc, qui vont être chargés d'aller en ville. Alors, bien sûr, notre Seigneur a tout, je dirais, tout est prévu, tout est organisé dans le plan de Dieu. Il leur indique, eh bien, comment va se faire le choix du lieu, etc. Donc, cet homme qu'il faut aller trouver, hein, allez à la ville et vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau et suivez-le. Voilà. Et en quelque lieu qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, mon temps est proche, je ferai la Pâque chez toi avec mes disciples. Voilà. Donc, comment trouver le lieu? Eh bien, tout simplement, vous allez aller à la ville et puis là, à la fontaine de Siloé, eh bien, vous allez trouver un homme avec une cruche d'eau, bien, vous le suivrez et puis vous lui direz, voilà, c'est chez toi, bien, que le maître veut célébrer la Pâque. Et la Pâque, on peut peut-être un petit peu en parler quand même rapidement avant, plus de choses très rapides, hein, pour que rafraîchir vos mémoires ou vous aider à mieux comprendre, mieux suivre un petit peu ce qui va arriver. La Pâque, ici c'est tiré d'un auteur, le père Didon. La Pâque était pour les Juifs la fête par excellence. Aucune n'était plus populaire. C'était vraiment la grande fête des Juifs. Hein. Pourtant, Jérusalem est plein de monde, du monde partout, dans tous les coins. Ça s'agit de tous les côtés. Ouais. Donc, aucune fête n'était plus populaire. Il inaugurait l'année religieuse et elle durait 8 jours. Vous voyez, la fête de Pâques durait 8 jours. Donc, un octave, c'est ce que nous faisons, nous aussi. Ouais. Après la fête de Pâques, il y a l'octave de Pâques, la semaine de Pâques. Ouais. Elle durait 8 jours, du 14 au 21 de Nissan. Le pain fermenté était rigoureusement interdit, on le mangeait azim, de là cet autre nom de fête des azimes pour désigner le jour de la Pâque. Dès la première heure du 14, le père de famille prenait une lampe, et il parcourait toutes les pièces de sa demeure afin de détruire tout le levain et la pâte fermentée. Il ne devait plus y avoir aucune trace de pâte de pain fermenté dans la maison. Ouais, c'était la fête des azimes, donc tout pain fermenté devait disparaître. On les brûlait dans un vase en plein vent. Ensuite, la fête s'ouvrait au son des trompettes. C'était les trompettes au temple. Hein, ça y est, la fête commence. Ouais. La fête s'ouvrait au son des trompettes et aussitôt les maîtres de la maison ou leurs serviteurs achetaient l'agneau. Voilà, ça, c'est bien sûr le grand morceau, si on peut dire, de la célébration de la Pâque, c'est le sacrifice et la manducation de l'agneau. Donc, les maîtres de la maison, leurs serviteurs achetaient l'agneau, un agneau d'un an et sans tache, un agneau un an, immaculé. On le portait au temple, et là, les prêtres l'égorgeaient, répandaient son sang sur l'autel des holocaustes, et la victime ainsi préparée devait être mangée le soir dans un festin religieux. C'est ce qu'on appelait faire la Pâque. Donc d'abord, on prépare la demeure, ensuite on va acheter un agneau, on va le faire immoler, l'offrir en sacrifice au temple, et puis ensuite, eh bien, il faut manger l'agneau. On rentre dans sa demeure avec l'agneau égorgé et on le mange. Le premier jour des azimes, le 14 de Nisan, en l'an 34 de Jésus-Christ, tombait un vendredi, oui, donc on commence la veille au soir, Jérusalem est déjà en mouvement pour accomplir tous les rites. On brûle le levain, on choisit une eau et une farine pure pour cuire les pains non fermentés. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle cet homme vient à la fontaine, hein, chercher de l'eau pure, justement, pour préparer la Pâque. On achète les agneaux, les parvis du temple sont encombrés par une multitude de gens qui portent l'agneau choisi sur leurs épaules et qui demandent au prêtre de l'immoler. Le sang coule à flot sur l'autel des holocaustes. C'est par milliers qu'on égorge les victimes, et partout les cénacles se préparent et les lits du festin se dressent pour le repas du soir. Une autre auteur continue, sur l'ordre de Jésus, Pierre et Jean vinrent à la ville pour préparer la Pâque. l'agneau d'un an et sans tache, choisi par eux. Ils vont donc en ville, ils choisissent, oui, donc ils ont suivi le maître de maison jusqu'à sa demeure. Bon, puis ensuite, il faut aller acheter l'agneau. Donc, ils vont acheter l'agneau. Donc, l'agneau d'un an et sans tache, choisi par eux, fut immolé au temple de la main du prêtre. Puis, selon l'usage, rôti et assaisonné d'herbes amères. Les pains azim furent cuits et le vin recueilli dans les amphores. Les Juifs, à l'époque de Jésus, célébraient le repas de l'agneau couché sur des lits. Vous connaissez, je pense, un petit peu la disposition du cénacle, vous voyez. Donc, on est étendu sur des lits, sur le côté gauche, de manière à avoir la main droite libre, hein, pour pouvoir consommer, hein. Et les lits sont en forme de U, forme de fer à cheval, vous voyez, ce qui fait qu'on peut circuler au centre et puis également derrière. Les serviteurs peuvent passer derrière pour passer les plats, etc. Vous voyez, donc, en forme de U. Hein. Le nombre des convives ne devait pas être inférieur à 10 et il s'élevait parfois jusqu'à 40 ou 50. Le cénacle était orné de tapis et de tentures. Au milieu, peu élevé, se dressait la table unique portant l'agneau, les pains azim et la coupe de vin que se passaient les invités. Et tout autour de la table, en demi-cercle, donc, les lits étaient préparés, légèrement inclinés un peu au-dessus de terre. Chaque convive devait s'étendre sur le côté gauche, la main droite libre. La première place était au centre, la seconde à gauche, la troisième à droite, et ainsi de suite. Voilà. Et donc, sur le soir, eh bien, voilà, les apôtres sont allés préparer tout cela. Tout est prêt, et sur le soir, eh bien, notre Seigneur quitte Béthanie, et nous disent les apôtres, quand l'heure fut venue, le soir étant venu, notre Seigneur se met à table, et les 12 apôtres avec lui. Et la première chose, alors il ne se met pas à table tout à fait, tout de suite, semble-t-il, hein, bon, oui, donc il vient. Il semble que dans la cérémonie de la Pâque juive, on commençait d'abord par se passer une coupe. Oui, c'était inaugurer un petit peu le repas pascal par une coupe de vin que le maître de maison bien passait à tous les invités, à tous ceux qui participaient à la Pâque. Donc, bon, chacun consomme, boit un peu à cette coupe. Et c'est à ce moment-là que notre Seigneur bien annonce son intention, ou exprime plus exactement à ses disciples ce grand désir. Ce grand désir qu'il a eu de célébrer cette Pâque, hein, c'est pour cela qu'il est venu. Cette Pâque qu'il va célébrer, eh bien, c'est déjà le sacrifice du vendredi, hein, bon, sous une forme cachée, sacramentelle. Et c'est pour cela qu'il est venu, c'est là le désir, ce grand désir, justement, qui a dévoré son âme depuis le moment de sa conception, de son incarnation. Et c'est ce qu'il leur dit, hein, j'ai désiré d'un désir ardent. En latin, desiderio, desideravi, j'ai désiré d'un grand désir. Ouais. Quand le latin insiste comme ça, il répète deux fois, ouais. Desiderio, desideravi, j'ai désiré d'un grand désir. Ouais. Pour montrer l'intensité de la chose. Ouais. J'ai désiré d'un désir ardent de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Avant de souffrir, bon. Dans quelques instants, bien, dans quelques heures, ce sera l'heure de ma souffrance. Mais d'abord, eh bien, je veux célébrer cette Pâque avec vous. Avant de la célébrer au calvaire, je veux la célébrer avec vous, la vivre avec vous, hein, pour qu'ensuite, eh bien, vous puissiez, eh bien, refaire ce que je vais faire. Là. Mourir sur la croix comme il le fera demain, ils ne le pourront pas. Bon, à moins d'y être forcés d'une façon ou d'une autre, mais faire ce qu'il va faire ce soir au Cénacle, ça, ils le pourront. Et c'est de cette façon-là qu'il veut vivre sa Pâque avec eux pour qu'ensuite, eh bien, il le fasse jusqu'à la fin des temps. Donc j'ai désiré d'un désir ardent manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous l'annonce, désormais je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Voilà, c'est la dernière, donc ça, après, je ne la mangerai plus. Donc, oui, introduction très très solennelle, très très... très ardente de notre Seigneur, hein, il leur annonce, eh bien, c'est la dernière Pâque, c'est fini. Après cela, je ne la célébrerai plus avec vous jusqu'à l'instauration du royaume de Dieu. Oui. Et alors, donc, c'est à ce moment-là, sans doute, qu'il fait circuler cette coupe qui inaugurait le repas pascal. Et il rend grâce, la passe à ses apôtres, et il répète, oui, « Je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne » jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. Il insiste. Il leur redit encore la même chose. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le règne de Dieu soit arrivé. Et ensuite, eh bien, après donc, cette coupe passée, c'est à ce moment-là, sans doute, que chacun prend place. Et c'est là qu'il y a un petit incident. Il semble que c'est à ce moment-là qu'il faille le situer. Ça paraît plus logique. Un petit incident entre les apôtres, une petite discussion. Ça arrive. Nos bons apôtres, ils sont bons comme tout, mais qu'est-ce que vous voulez ? Voilà, ils ont aussi leurs petits défauts. Ils n'ont pas encore tout à fait tout compris. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils se chamaillent un petit peu pour savoir qui doit avoir la première place. Ok, ça se comprend un peu. Moi, j'avoue, j'aurais été là. Je crois que j'aurais bien aimé être à côté de notre Seigneur, c'est sûr. Ben, mais tout à leur place, non. Ben, je comprends un peu qu'ils sont un petit peu chamaillés, qu'ils seraient plus près de lui. Donc, une petite discussion, très, très paisible, très courtoise, certainement. Enfin, une petite discussion. Il y eut un débat entre les apôtres sur celui d'entre eux qui semblait être le plus grand, donc lequel devrait être le plus près de notre Seigneur. Et donc notre Seigneur leur donne une petite leçon d'humilité. Il dit, bon, voilà, vous connaissez, je pense, ce passage. Les rois des nations dominent sur leurs sujets. Et ceux qui ont puissance sur les autres se font appeler bienfaiteurs, mais qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Et soyez toutes ces paroles que notre Seigneur adresse à ses apôtres, à ses disciples, n'oublions pas qu'il nous parle à nous aussi, mais qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Mais que celui de vous qui est le plus grand soit comme le plus petit, et que celui qui tient le premier rang soit comme celui qui sert. Voilà, que celui qui est le premier, eh bien, se considère comme le serviteur de tous. Et c'est ça, la véritable autorité dans l'Église, ça. La véritable autorité, le concile et l'Église actuelle abuse peut-être un petit peu de cette question-là, mais ça n'est pas tout à fait faux. L'autorité est un service. Celui qui a l'autorité, eh bien, il est serviteur du bien commun, serviteur du bien de tous. Il n'est pas là pour dominer, pour faire sa volonté, ses caprices, etc. Non, c'est pas ça l'autorité. La finalité de l'autorité, lorsque Dieu donne une autorité à quelqu'un, eh bien, c'est pour lui confier la mission de réaliser le bien de ceux qui sont sous ses ordres. Voilà, les rendre heureux, leur enseigner la vertu, les conduire au bien, les conduire à la sainteté. Voilà, donc c'est un service. Voilà. Et autrefois, le pape, autrefois, il n'y a pas si longtemps que ça, le pape s'intitulait le serviteur des serviteurs de Dieu. Ouais, pour bien montrer justement quel était son rôle. Ouais. Non pas gouverner, non pas... Si, gouverner, bien sûr, mais pas pour dominer, ouais, imposer des volontés arbitraires. Non, pas du tout. Mais vraiment serviteur des serviteurs de Dieu. Voilà, pour aider tous les enfants de Dieu, eh bien, à servir leur Père, à glorifier leur Père. Lequel, en effet, est le plus grand ? De celui qui est assis à table ou de celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Eh bien, moi, cependant... Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et pour vous qui êtes constamment demeuré avec moi dans mes épreuves, je vous prépare à mon tour un royaume, comme mon Père me l'a préparé. Vous voyez, il leur annonce, voyez, ce don, ce banquet, ce repas pascal est un peu la figure, voyez, c'est ce banquet éternel. Et bon, souvent, notre Seigneur aime représenter l'éternité par un banquet. Ce banquet, le maître de maison, le maître de famille, le roi, etc., assez souvent, c'est l'image du banquet pour manifester de façon très très concrète, c'est une chose qu'on comprend bien, la joie un petit peu, qui sera la nôtre lorsqu'on sera au paradis. Oui. Donc la comparaison du banquet, et c'est ce que leur annonce notre Seigneur, oui, ce banquet que nous allons vivre ensemble n'est que l'image, la figure, la préparation de ce banquet éternel. Mais attention, à qui prépare-t-il ? Oui, c'est pour ça que chacune des phrases serait à méditer. Là. À qui est préparé ce banquet ? À vous qui êtes constamment demeuré avec moi dans mes épreuves. Vous qui êtes demeuré avec moi dans mes épreuves. Vous qui n'êtes pas flanché, vous qui n'êtes pas déserté, qui n'êtes pas fui la croix, etc. Eh bien, pour vous, voilà. Eh bien, je vous prépare à mon tour un royaume, comme mon Père me l'a préparé. Et dans mon royaume, vous mangerez et boirez à ma table, et vous y siégerez sur des trônes pour y juger les 12 tribus d'Israël. Vous voyez, ce grand banquet. auquel prendront place les apôtres, bien sûr, pour voilà, juger les 12 tribus d'Israël, bon, aussi à juger avec notre Seigneur tous les hommes, bon, exercer un petit peu cet acte de jugement. Et ces 12 tribus d'Israël, ben, qui représentent un petit peu, c'est une figure un petit peu de tous les élus, hein, tous ceux qui seront invités à cette table éternelle. Hein. Voilà, donc, petite leçon d'humilité que leur donne notre Seigneur, après cette petite discussion, hein, quant aux préséances, hein, qui serait le plus près, le deuxième, etc. Ouais. Et c'est alors eh bien, que commence le festin, le vrai festin pascal. Les rites étaient assez simples, hein, ouais, c'est quelques indications. Ouais. Qu'est-ce qu'on servait dans ce repas pascal? Eh bien, il y avait d'abord des laitues sauvages, des herbes amères. Ouais. Des laitues sauvages, des herbes amères, en souvenir justement des amertumes que les Hébreux avaient connues en Égypte. Ouais, toujours souvenir de la Pâque, ouais, cette fuite d'Égypte. Et donc, quelques mets pour rappeler un petit peu aux Hébreux eh bien, ce que leurs ancêtres avaient connu. Donc, des laitues sauvages, des herbes amères, du pain sans levain, donc, puisque en ce jour de la Pâque, ils n'avaient pas eu le temps de laisser fermenter la pâte. Et puis enfin, l'agneau pascal, hein, cet agneau pascal dont le sang avait marqué le linteau des portes des Hébreux pour ben, dire à l'ange exterminateur bien de passer, d'aller chez un autre, ouais, pour protéger donc, les enfants des Juifs de l'extermination. Hein. Donc il est sûr que le centre, c'est l'agneau pascal. Hein. Alors en plus, tout cela, bien sûr, agrémenté de coupes. Il faut bien un petit peu aider un petit peu à la consommation de toutes ces choses-là. Vous voyez, des coupes qui circulent de temps à autre entre tous les participants. Et habituellement, après la première coupe, celle qui inaugure donc le repas, habituellement on faisait passer un bassin entre les convives pour se purifier les mains. Et c'est là que notre Seigneur prend occasion pour eh bien, continuer sa leçon d'humilité. Il vient de la rappeler, l'humilité nécessaire à tous ceux qui ont une autorité quelconque. Voyez. Et il leur donne cette grande leçon d'humilité. Eh bien, non seulement ce n'est pas un bassin qu'il va faire passer entre eux pour qu'ils se purifient, ils se nettoient les mains, mais c'est lui-même qui va passer hein, auprès de chacun de ses disciples pour leur laver les pieds. Bon, c'est ce grand événement magnifique, hein, ça qui est étonnant d'humilité. Les apôtres même sont très étonnés de voir notre Seigneur tout d'un coup, hein, bon, lui qui est le maître, lui qu'ils ont servi depuis 3 années pratiquement, lui qui les a enseignés, etc. Et bien qui se met à genoux devant eux là, et puis qui commence à non pas brosser quand même pas, faut pas exagérer, c'est une purification un petit peu symbolique quand même, j'espère du moins. Mais qui commence un petit peu ben, à leur nettoyer les pieds, leur laver les pieds. Et c'est ce que nous raconte Saint Jean. Saint Jean est le seul à nous raconter cet événement. Les autres évangélistes ne l'évoquent pas, hein, cet événement du lavement des pieds. Vous avez ça au chapitre 13 de Saint Jean. Et la scène pascale étant commencée, et déjà le démon avait mis au cœur de Judas la résolution de le trahir. Et Jésus, qui savait que le Père a tout remis entre ses mains, et que sorti de Dieu, il va retourner à Dieu, Jésus, donc, se lève de table. Il se lève, dépose ses vêtements, et prenant un linge, il le met autour de lui. Voilà. Donc un linge autour de la ceinture. Et puis il verse de l'eau dans un bassin, et commence à laver les pieds de ses disciples, les essuyant avec le linge attaché à sa ceinture. Voilà. Il semble, bon, c'est pas très très clair, hein, mais il semble quand même qu'il n'ait pas commencé par Saint-Pierre. Oui, puisqu'il dit ensuite, oui, le Saint Jean dit, il arrive donc à Simon Pierre. Oui, il a dit, il a que. Puis il verse de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds de ses disciples et il arrive à Simon Pierre. Donc il semblerait qu'il n'ait pas commencé par Pierre. Par qui a-t-il commencé? Peut-être par Judas? Qui sait? Allez savoir. En tout cas, jusqu'ici, apparemment, les apôtres n'ont rien dit. Peut-être qu'ils étaient un peu cloué par la surprise, ne sachant trop que dire, n'osant pas se défendre. Quand même. Puis Simon-Pierre, le bon Saint-Pierre, dit quand même, ça va pas, ça ne marche pas, c'est pas normal, quoi. Vous, Seigneur, vous me lavez les pieds, ça ne va pas. Et voilà, notre Seigneur qui insiste, qui développe justement sa grande leçon d'humilité. Ce que je fais, lui dit Jésus, tu ne le comprends pas maintenant, mais plus tard, tu le comprendras. plus tard. Bon, pour l'instant, c'est sûr. Il n'a pas encore reçu toutes les lumières de l'Esprit Saint, etc. Mais plus tard, tu comprendras. Non, non, proteste Pierre, jamais vous ne me laverez les pieds. Oh non, ça ne marche pas comme vous me lavez les pieds, non, non. Notre Seigneur use de l'argument quand même, je dirais, majeur. Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Oh, ça, ça va pas. Non. Ça, si c'est la condition pour rester avec vous, alors on n'a pas de problème. Les pieds et tout le reste, il faut y aller. Ça. Allez. Là, ça n'est pas question de me séparer de vous, pas question de vous quitter, ça. Je veux rester avec vous. Et c'est très beau tout cela. Ouais. Alors allez-y, mais faites couler. Lavez-moi tout entier si vous voulez. Non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Non, c'est pas la peine. Pas la peine. Non. Celui qui a été lavé, repris Jésus, n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Ouais, les pieds, parce que bon, voilà. Il a fallu cheminer un petit peu dans les rues de Jérusalem pour venir jusqu'à. Bon, enfin, le reste est propre, c'est pas la peine. Non. Juste un petit peu de poussière sur les pieds, ça c'est vite parti, ça suffit. Donc celui qui a été lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous, vous êtes pur, mais non pas tous. Ma première allusion, ouais, un petit peu à celui dont il va parler un peu plus loin. Vous n'êtes pas tous purs. Il savait qu'il le trahirait, et c'est pourquoi il ajouta, vous n'êtes pas tous purs. Et ensuite, eh bien, il reprend ses vêtements, après avoir donc lavé les pieds de ses apôtres, il reprend ses vêtements, il se remet à table et puis il leur commente un petit peu ce qu'il vient de faire, ce geste. Savez-vous ce que je viens de faire à votre égard? Oui, encore, il développe sa leçon d'humilité. Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, je le suis en réalité. C'est vrai, je suis votre seigneur. Mais si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le maître et le seigneur, voyez-vous un petit peu, vous, ce qu'il vous reste à faire, les uns vis-à-vis des autres, hein. Si moi, qui suis le maître et le seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Bon, c'est déjà une amorce un petit peu de ce grand commandement qu'il leur donnera un peu plus tard, hein, ce commandement de l'amour, hein, ce commandement qu'on appelle le commandement nouveau. Je vous donne un nouveau commandement, c'est de vous aimer les uns les autres. Ouais. Se laver les pieds les uns les autres, c'est cela que cela veut dire, bien sûr. Hein. Je vous ai donné l'exemple afin que vous fassiez à votre tour ce que j'ai fait moi-même pour vous. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et oui, c'est un enseignement qui reprendra un peu plus tard, cela. Ensuite, donc, notre Seigneur développe un petit peu ses pensées. Je vous laisse lire, hein. Je ne vais pas tout lire intégralement, ce serait trop long. Et au milieu de ce discours, notre Seigneur est un peu troublé. On sent toujours, vous voyez, déjà, nous avions parler de cette chose-là la fois précédente. Hein. On sent toujours notre Seigneur partagé entre ces deux sentiments, un petit peu cette joie dont exulte son âme, cette joie de d'arriver enfin à cette grandeur dans laquelle il va glorifier son Père et j'irai délivrer toutes nos âmes du péché. Donc c'est cette joie très profonde qui est en lui. Et en même temps, ce trouble quand même, il y a ce trouble qui est très humain. Car il est homme aussi, homme parfait, homme complet, avec les mêmes angoisses, on peut dire les mêmes souffrances, en tout cas que nous connaissons, et qu'il a voulu connaître précisément. Et donc, par moments, notre Seigneur est troublé également. Hein. L'angoisse humaine reprend un petit peu le dessus. Et c'est à ce moment-là, bien qu'il livre un petit peu son secret à ses apôtres. Hein. Après avoir dit ces paroles, Jésus se troubla dans son esprit. Bon, moment d'émotion. Et tandis que ses disciples étaient à table et continuaient le repas, il leur fit entendre cette déclaration. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. Et celui-là mange avec moi. Ouais, le repas se continue. Peut-être en sont-ils arrivés à l'agneau, hein, la consommation de la mendication de l'agneau. Nous ne savons pas très bien. Au sujet de l'agneau, il y a une chose qui est très très curieuse, très très révélatrice, je pense aussi, c'est que aucun des évangélistes, oui, ne parle de l'agneau pascal. Aucun. Les quatre évangiles, aucun n'évoque, oui, la mendication de l'agneau au cours de cette scène, alors que sans doute ils ont mangé l'agneau pascal, oui, et pourtant aucun n'ose, je dirais, en parler. Eh bien, cela semble-t-il, les commentateurs disent que cela a été volontaire, ou au moins, on dirait, inspiré par le Saint-Esprit, quoi, hein, mais pour manifester bien que l'agneau véritable, L'agneau véritable, eh bien, c'est notre Seigneur. Donc, lorsque l'agneau véritable est là, on ne parle pas de la figure. Ce n'est pas la peine de parler de cet agneau pascal, qui n'est pas grand-chose, qui n'est que la figure, justement, du véritable agneau de Dieu, qui est Jésus-Christ en personne. Alors, on parle de l'agneau de Dieu, de Jésus-Christ, mais on ne parle pas de sa figure. Donc, aucun des évangélistes ne parle, effectivement, de cet agneau pascal. Et donc, notre Seigneur qui se trouble et qui annonce à ses apôtres, eh bien, il avait déjà un petit peu évoqué la chose, mais cette fois, il l'annonce de façon très, très claire. L'un de vous me trahira, et celui-là mange avec moi. Alors là, émotion, trouble chez les disciples, chez les apôtres, qui se regardent un petit peu l'un l'autre, mais qui est-ce? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Oui. Les disciples se regardaient l'un l'autre, accablés de tristesse et d'effroi, ne sachant de qui ils parlaient, et chacun de dire à Jésus, « Est-ce moi, Seigneur ?» Elle, c'est bien ça, je trouve. C'est une bonne réaction. Nos apôtres, ils sont ce qu'ils sont, mais là, ils ont une bonne réaction. Ils sont un petit peu effrayés, ils se posent des questions, mais ils ne sont pas là à se dire, « Tiens, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est lui ?» Non, ils disent, « Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est moi qui vais le trahir ?» Et ce sentiment de faiblesse, sentiment d'humilité, nous pouvons tous trahir notre Seigneur. Les autres aussi, ça, sans doute, mais moi aussi. Moi, je suis bien capable de le trahir, n'importe quand. Et chacun se pose la question pour lui-même. C'est bien, ça. Bien, une bonne réaction. Et donc, chacun, bien, demande à notre Seigneur, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi qui vais vous trahir? Oui. Et Jésus répond, c'est l'un des douze, c'est l'un d'entre vous. Et oui, il y en a un qui met sa main dans le plat avec moi et qui doit me trahir. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été prédit de lui, mais malheur à l'homme par lequel il sera livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût jamais né. Ah, c'est une parole terrible, hein, terrible. Bon, qui laisse entendre, hein, ça c'est si vous réfléchissez à cette parole, hein, on ne veut condamner personne, c'est bien évident, mais on essaie de comprendre un peu la signification de cette parole, et ça, tous les commentateurs pratiquement l'interprètent dans ce sens. Eh bien, qu'il aurait mieux valu que Judas ne fût jamais né. Donc, que Judas soit resté dans le néant, que Judas n'ait jamais existé, plutôt que d'être dans l'état où il est actuellement. Bon, alors quel est son état actuel? Eh bien, pas trop difficile à deviner, là, ça. Bon, c'est pas une certitude métaphysique, mais, si vous voulez, expliquer autrement, on peut pas expliquer autrement cette phrase de notre Seigneur, ouais. Et Judas est damné, quasi certainement, si vous voulez, d'après cette parole, mais non pas tellement pour sa trahison, attention, hein, son véritable péché, c'est pas tellement la trahison, parce que Saint-Pierre, dans quelques heures, ne fera pas beaucoup, beaucoup mieux, hein, ne fera pas vraiment une trahison, mais le reniement, c'est pas bien beau non plus, hein. Mais la différence entre Saint-Pierre et Judas, bien, c'est que Saint-Pierre, après, bien, il va se mettre à pleurer. Et pleurer de repentir, pleurer de honte, pleurer de chagrin, pleurer de contrition. Hein. Bon, ça c'est bien ça. Alors que Judas, lui, ne pleurera pas. Judas n'aura pas de repentir. Ou il aura peut-être la honte, il aura peut-être, je ne sais pas quoi, un sentiment de honte de lui-même peut-être, mais surtout il aura, surtout, un mouvement de désespoir. Hein. Il n'aura pas suffisamment foi en notre Seigneur, suffisamment confiance, en notre Seigneur, dans le Sacré-Cœur, oui, mais pour aller se jeter à ses pieds, demander pardon. Oui, mais non, il ne croit pas pouvoir être pardonné. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se pendre. C'est le désespoir. Le véritable péché de Judas, c'est le désespoir, ce n'est pas la trahison. Et c'est ce péché, sans doute, de désespoir, justement, mais qui est sa condamnation. Le désespoir est sans doute un des péchés les plus graves qui soient. Oui. Désespéré de l'amour de Dieu. Après tout ce qu'il a fait pour nous, mais comment peut-on encore ne pas croire que Dieu nous aime? Enfin, quand même, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse de plus? C'est inimaginable, ça, oui. Eh oui, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût jamais né. Et c'est alors que Judas prend la parole à son tour et demande, est-ce moi, Rabbi? Est-ce moi, Maître? Il semble là que la question ait été posée plutôt discrètement, il ne devait pas être très, très loin de notre Seigneur, et notre Seigneur lui répond, tu l'as dit. Judas, il le savait déjà. Il savait déjà que c'est lui qui allait trahir, puisqu'il avait déjà tout comploté, tout manigancé avec le Sanhédrin, avec les Juifs. Donc il savait qu'il voulait le trahir, il savait que tout était déjà préparé. Ouais. Et la confirmation par notre Seigneur. Et notre Seigneur, oui, si notre Seigneur le dévoile ou le dénonce, ou ouais, un petit peu alerte, c'est pas pour le dénoncer, c'est pour essayer de le toucher un peu, lui dire, mais je sais ce que tu veux faire, je sais ce que tu vas faire. Alors réfléchis, c'est un petit peu pour le secouer un petit peu, lui dire, mais attention, je dois réfléchir un peu à ce que tu as préparé un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, ouais. Je sais ce que tu veux faire. Bon, ça devrait normalement, je dirais, quand on se voit découvert, en principe, on dit attention, on réfléchit, on dit mais est-ce que. Voilà. Ben non, apparemment ça ne le fera pas changer d'avis. Hein. Et notre Seigneur continue. Voici pourtant que la main de celui qui doit me trahir est avec moi à cette table. C'est une chose des plus terribles qui soit, cela. Il y a un psaume, c'est le psaume, je ne sais plus très bien quel numéro, mais enfin vous irez voir ça, où c'était déjà annoncé, David avait déjà un petit peu, bon, bien longtemps à l'avance, parlé un petit peu de cette trahison par un des familiers. Ça c'est la chose la plus terrible qui soit, être trahi par un de ceux qui est de nos familiers, qui vit avec nous en permanence, un de nos confidents, ouais, et qui abuse justement, qui use de la confiance qu'on lui fait, de notre amitié, pour nous trahir, affreux. Et à ce moment, l'un des disciples, celui que Jésus aimait, donc c'est Saint Jean, bien sûr. Saint Jean reposait sur le sein de Jésus. Oui, vous voyez notre Seigneur donc, qui est allongé, là, sur le côté gauche, et puis Saint Jean devait être à côté de lui. Puis, voilà. Il devait poser sa tête un peu sur la poitrine de notre Seigneur, c'est sûr que ça ne devait pas être désagréable, je pense. Là. Mais là, ça y est, il a dû s'en passer des choses. Hein. Bon, notre Seigneur est Dieu, comme ne pas l'oublier. Ouais. Et donc, Saint Jean, l'apôtre, le disciple bien-aimé, qui repose sa tête ainsi sur le cœur de Dieu, sur le Sacré-Cœur, ben, moi je pense qu'il a dû en entendre des choses, là, en comprendre des choses, ouais, surtout les mystères justement du cœur de notre Seigneur. Hein. Ce qui expliquera un petit peu peut-être justement, tu dirais, ce qui va suivre. Et si Saint Jean est le seul apôtre que nous trouverons au pied de la croix, c'est peut-être parce qu'il a été le seul, justement, à avoir eu cette simplicité de venir eh bien, se reposer sur le cœur de Jésus. Et comprendre un peu eh bien, cet amour qui faisait battre le cœur de notre Seigneur. Et à ce moment-là, Simon-Pierre, bon, qui devait être pas trop, lui fait signe, là, pas trop comment, enfin, de qui il parle. De qui il parle? Qui c'est celui-là? Hein? De qui parle-t-il? Et ce disciple, s'étant penché donc sur la poitrine de Jésus, lui dit, qui est ce Seigneur? Celui à qui je vais présenter du pain trempé, répondit Jésus. Et effectivement, notre Seigneur trempe du pain et le donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Et dès que Judas eut mangé ce pain, Satan entra en lui. Satan qui utilise vous voyez, ce geste d'amitié. Oui. Notre Seigneur multiplie au contraire les prévenances et les gestes d'amitié à l'égard de Judas. Et en fait, eh bien, Satan oui, se sert de cela pour au contraire pénétrer dans l'âme, dans le cœur de Judas. Satan entre en lui. Et à ce moment-là, notre Seigneur lui dit à Judas, ce que tu fais, fais-le vite. Les apôtres qui étaient là, bon, ont cru, nous dit les évangiles, vous voyez, bien que, comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensèrent que Jésus lui avait dit, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ouais, pour continuer, comme ça va durer 8 jours, bon, il faudra faire encore un petit des provisions. Comme le lendemain sera un jour de sabbat, pas de course, pas de commission, pas de déplacement, donc il faut faire ça pendant qu'on peut encore le faire, donc certains ont cru que c'était ça. Ou bien encore qu'il lui avait ordonné de faire une aumône aux pauvres. Il ne veut pas bien connaître Judas, mais enfin, voilà. Donc en tout cas, ils n'ont pas compris ce que cela signifiait. Et aussitôt, après avoir pris le pain, Judas sortit, et il était nuit. Et c'est curieux cette toute petite phrase, hein, « et il était nuit ». Que veut signifier l'évangéliste là? Est-ce qu'il faisait nuit dehors? Peut-être. Quelle heure est-il à peu près là? Vers 19h, 20h à peu près, ouais, autour de 8h du soir. Bon, est-ce qu'il faisait nuit? Peut-être, oui. Mais en tout cas, très certainement, il faisait nuit dans l'âme de Judas. Et c'est peut-être cela que l'apôtre, que l'évangéliste a voulu nous indiquer, hein, cette obscurité, cette ténèbre de l'âme en état de péché mortel. Et à peine Judas fut-il sorti, que Jésus, on a l'impression qu'il est libéré, qu'il est soulagé, qu'il va pouvoir enfin, je dirais, exprimer un petit peu tout ce qu'il a à dire à ses apôtres. Eh bien, notre Seigneur a cette très belle exclamation. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Et parce que Dieu est glorifié en lui, à son tour, il le glorifiera en lui-même, et ce sera bientôt qu'il le glorifiera. Donc notre Seigneur est comme soulagé par cette présence qui n'était plus une présence amie, par le départ plutôt de cet homme qui n'était plus son ami. Et enfin, ça y est, bien. Donc il annonce en gros bien que l'heure est enfin venue. L'heure, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Et c'est à ce moment-là, eh bien, que se réalise ce grand événement très, très saint, qui est l'institution de l'Eucharistie sacrement, l'Eucharistie sacrifice et le sacerdoce. C'est vraiment tous les trésors de l'Église, dont vit l'Église. C'est à ce moment-là bien qu'ils nous sont donnés. Et scène très, très simple, très simple. On a l'impression qu'il n'y a rien d'extraordinaire et pourtant, bien là, vous voyez, notre Seigneur, une fois de plus, bouleverse un petit peu l'ordre des cérémonies. La cérémonie de la Pâque juive, eh bien là, c'est une petite cérémonie qui n'était pas prévue. Ça ne se faisait pas d'habitude. Et voici que notre Seigneur, donc, pendant qu'il soupait, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Et prenant le calice, il rendit grâce et le leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui sera répandu pour vous pour la rémission des péchés. » Alors, quant à cette institution de l'Eucharistie, nous avons quatre versions différentes. Différentes avec des toutes petites nuances. Saint Matthieu, celle que je vous ai lue, c'est celle de Saint Matthieu, Saint Marc également, Saint Luc, et Saint Jean n'en parle pas. Très curieux, ça. Dommage, on aurait d'être aimé que Saint Jean nous racontât lui-même un petit peu l'institution de l'Eucharistie, mais il n'en parle pas. Pas un mot. Mais sans doute n'a-t-il pas jugé utile de le faire parce que les autres apôtres l'avaient fait avant lui. Bon, ben voilà, ils l'ont dit, donc il a préféré, lui, développer au contraire les belles paroles de notre Seigneur qui ont suivi cette institution, ce que n'avaient pas fait les autres apôtres. Mais nous avons quand même une quatrième narration de cet événement, c'est Saint Paul. Saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, où Saint Paul dit, bien, voici ce que j'ai reçu du Seigneur, donc ce que j'ai appris du Seigneur, et que je vous ai transmis, etc. C'est donc que la nuit où il fut livré, il prit le pain et rendant grâce, etc. Et curieusement, voyez, si vous lisez chacun des trois évangiles, donc Saint Matthieu, Luc, Marc, ou bien la première aux Corinthiens, Saint Paul, eh bien, vous verrez que chacune des paroles qui sont rapportées pour l'institution de l'Eucharistie, eh bien, aucune plutôt ne correspond aux paroles que le prêtre prononce à la messe. Oui, ce n'est pas l'Église a voulu pour la liturgie, pour la célébration de la messe, n'a pris aucune de ces quatre formules rapportées par les apôtres. Mais elle a composé, sous l'inspiration certainement de l'Esprit Saint, ça c'est évident, et même très très certainement, vous savez, sous l'inspiration de notre Seigneur lui-même, on ne peut pas se faire d'illusions, notre Seigneur a prononcé des paroles, chacun des apôtres les a rapportées un petit peu à sa façon, voilà, ce qu'il en avait retenu, etc. Mais très certainement, après la résurrection, notre Seigneur, pendant les 40 jours qu'il va passer avec eux, certainement leur a donné des indications, un petit peu comment il faudra faire, Donc, il ne faut pas nous étonner, si les paroles du missel ne correspondent à aucune de ces quatre formules. Bon, elles correspondent, quand même, je dirais, pour l'essentiel, mais bon, il y a un petit mot qui n'est pas là, ou un petit mot qui y est, etc. Ouais. Il y a une chose qui est intéressante, en tout cas, je dirais, dans ces paroles de la consécration, c'est que si on se réfère aux textes originaux, je ne vais pas vous faire trop d'exégèse, de philologie quant au grec, etc. Eh bien, c'est qu'en fait, c'est Saint-Luc surtout qui est intéressant pour cela. le temps employé et le présent. Je me réfère surtout à ces paroles qui sont rapportées par Saint Luc. Voici ce que nous dit Saint Luc. « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même le calice après qu'il eut soupé, en disant « Ce calice est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Et c'est important. Le corps est donné pour vous. Le corps est livré pour vous. Le sang est répandu pour vous. Le sang est versé pour vous. Ce n'est pas le corps qui sera donné pour vous ou le sang qui sera versé pour vous. Non, c'est le corps qui est donné et c'est le sang qui est versé. Et ça n'est pas sans importance, cela. Ça veut dire, eh bien, qu'au moment même où notre Seigneur institue l'Eucharistie, où il célèbre la scène, là, eh bien, à ce moment-là, son corps est déjà livré. Et son sang est déjà versé. Il est en train de se verser. Et le temps employé, pour ceux qui auraient fait quelques études, vous voyez, en grec, eh bien, c'est l'aoriste, ou bien le participe présent et l'aoriste, pour ceux qui ne le sauraient pas. Il peut y en avoir l'un ou l'autre. Et c'est un temps qui exprime la durée, la permanence d'une action passée. Vous voyez, c'est une action qui dure, c'est une action qui n'est pas terminée. Et c'est important cela, vous voyez, c'est-à-dire que le sang, le corps est donné maintenant, et il est toujours donné. C'est pas demain qu'il sera donné, c'est pas hier qu'il a été donné, il est donné, et il est toujours en train de se donner. Et le sang, il est versé, et il est toujours en train de se verser. Vous voyez. Ça n'est pas un futur. Hein. Contrairement à ce que disent certaines versions latines ou bien des traductions, ouais, ce n'est pas mon corps qui sera donné pour vous, ce n'est pas mon corps, mon sang qui sera répandu pour vous. Non, non, mon corps est donné maintenant et mon sang est maintenant versé. Ouais. Et c'est important pour bien manifester justement l'identité entre le sacrifice de la scène, oui, bon, et le sacrifice de la croix, et ainsi que l'identité avec le sacrifice de la messe. Oui, c'est le même acte. Ce n'est pas trois actes différents, c'est le même acte. Mais en Dieu, tout est éternel, hein, tout a une petite saveur d'éternité. Et donc, eh bien, c'est le même acte qui est rendu présent sous des formes différentes, simplement. Oui. D'abord, il est rendu présent à la scène, il est rendu présent à la croix, bien sûr, là, de façon première, principale, et il est rendu présent également ensuite au cours de la messe, bon, mais sous des formes différentes, d'une manière sanglante, nous dit le Concile de Trente, au calvaire, et de manière non sanglante à la scène et à la messe. Ouais. Et il est certain que la messe, notre messe actuelle, elle, reproduit la scène. C'est la scène que nous refaisons. Mais attention, hein. Ce n'est pas le calvaire hein, que nous reproduisons à la messe. Mais attention, nous reproduisons la scène, et en reproduisant la scène, eh bien, nous reproduisons l'acte du calvaire. Mais sous une autre forme, hein, celle que notre Seigneur a voulu lui donner la veille, le soir du Jeudi Saint. Voilà. Il a voulu lui donner cette forme sacramentelle, hein, sous les espèces du pain et du vin. Oui. Mais c'est le même acte, c'est l'acte de la croix qui est renfermé dans l'acte de la scène et dans l'acte de la messe. Oui. Bon. Et pourquoi cette question du temps oui, que notre Seigneur a employé, c'est Saint Luc qui est le plus explicite pour cela, mais est quand même importante. Hein. C'est se méfier des traductions qu'on nous donne dans l'Église depuis quelques temps. Bon. Voilà. Voilà donc ce grand événement. Ce grand événement de la scène, et dans lequel donc notre Seigneur institue l'Eucharistie sacrement, l'Eucharistie sacrifice, ne pas oublier ces deux réalités hein, dans l'Eucharistie. Il institue également le sacerdoce en disant tout simplement aux apôtres cette petite phrase très très simple hein, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci. Bon, qu'est-ce que c'est ce ceci? Ben, c'est ce que je viens de faire. Donc, ben faites la même chose que moi, refaites ce que je viens de faire. Et si notre Seigneur leur donne ce commandement de faire ce qu'il vient de faire, ben il doit leur en donner le pouvoir, c'est évident. Il serait absurde de dire à quelqu'un de faire ce que je viens de faire si je ne lui donne pas en même temps le pouvoir, la capacité de le faire, effectivement. Ouais. Et donc, que devront faire les apôtres? Bon, non seulement, bien sûr, je dirais, refaire matériellement les gestes, les paroles, vous voyez, qu'il vient de faire, mais également la réalité. C'est-à-dire, donc, donner son corps, vous voyez, et lui répandre son sang. Voilà. Là, ce qu'ils devront faire jusqu'à la fin des temps. Et tout cela en mémoire de lui. Et donc, c'est clair, c'est là qu'il leur donne le pouvoir sacerdotal, le pouvoir de renouveler, de rendre présent son sacrifice. En vérité, et notre Seigneur achève, oui, je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume de Dieu. Alors là, les traductions sont un petit peu difficiles à faire. Il semble que la véritable signification, ce serait plutôt jusqu'au jour où je le boirai nouveau. Oui, ce fruit de la vigne, eh bien, je le boirai dans un nouvel état. Dans le royaume de Dieu. Ouais, c'est ce banquet éternel où tous ensemble, eh bien, nous boirons le sang de l'agneau, mais ce sera la gloire, tout simplement. Ouais, la participation à la gloire de Dieu, la participation à la vie de Dieu. Nous pourrons dire que là, nous buvons le sang de l'agneau, le fruit de la vigne, mais d'une façon tout à fait différente, bien sûr. Hein, ce sera la participation à la vie même de Dieu, à la vie de Jésus-Christ. Et ensuite, alors là, sont des moments très, 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 très émouvants, hein, tous ces moments-là. C'est ce grand discours de notre Seigneur après la scène, bon, qui se répartit en plusieurs étapes. On sent bien une progression, hein, dans tous ces grands discours que fait notre Seigneur. Et, bon, voilà, donc il vient d'instituer l'Eucharistie, d'instituer la messe, d'instituer le sacerdoce, et puis ben maintenant, bien, voilà, il va falloir se séparer. Et il a fait tout ce qu'il avait à faire avec ses apôtres, maintenant il va falloir qu'il parte vers son sacrifice, oui. Et il va essayer un petit peu de les rassurer, leur donner ses dernières instructions, ses dernières consignes, si l'on peut. J'oubliais au sujet de cette scène. Je vous l'indique simplement parce que la question a été débattue par les pères de l'Église et les commentateurs. Une question, bon, vous voyez un petit peu dans quel sens moi-même j'ai tranché. La question de la communion de Judas. Est-ce que Judas a communié? Bon, d'après le déroulement que je vous ai donné, Judas était sorti avant. Mais certains commentateurs, comme suivant l'évangile que vous prenez, effectivement, on peut penser qu'il était encore là au moment de l'institution de la scène. Et les commentateurs, les pères de l'Église sont partagés. Certains disent que Bélit est encore là, d'autres disent que non. Bon, ben, enfin, on verra tout ça quand on sera au paradis. Hein. D'ici là, ben, moi, personnellement, bon, voilà, moi, j'incline plutôt, mais attention, je ne vous garantis pas d'être dans la vérité, ça, c'est... J'incline plutôt pour la thèse de la non-communion de Judas, oui. Et le prêtre a, en principe, oui, n'a pas le droit de donner la communion à quelqu'un dont il a, bon, sauf scandale, mais ça c'est autre chose, quoi, hein. En principe, on doit refuser la communion aux indignes. Bon, quelqu'un qui n'est pas, qui est pas, je ne sais pas quoi, tout ce qu'on peut imaginer, on ne doit pas lui donner la communion. Et là, j'avoue qu'on imagine mal que notre Seigneur, voyez, connaissant l'état de l'âme de Judas, etc., même si les apôtres ne le savaient pas, voyez, connaissant un petit peu ce que Judas avait au fond de son âme, eh bien que notre Seigneur les fait prêtre et lui ait donné la communion. Ça aurait été à la limite aggraver son péché, parce que là c'était une communion sacrilège pour Judas. Voyez. Donc c'était presque, je dirais, de soi-même, voyez, aggraver le péché de Judas, et c'était déjà bien assez grave. Voyez. Pourquoi je mens, certains auteurs, certains docteurs, pères de l'Église, pensent que Judas, effectivement, était déjà sorti. Oui, bon, voilà. Et c'est après seulement, eh bien, qu'il y a l'institution du sacerdoce et de l'Eucharistie. Bon, maintenant, vous avez le droit de penser. Ce n'est pas défendu, oui, ça. L'Église, vous pouvez penser que Judas était prêtre, qu'il a été institué prêtre et qu'il a communié. Bon, à vous de choisir. Voilà. Et donc notre Seigneur, bien maintenant, va devoir quitter ses apôtres. D'abord, un premier discours qui s'adresse à eux, ici, au Cénacle, donc, après la fin de ce repas. Notre Seigneur, justement, leur annonce, eh bien, qu'il va falloir bientôt se séparer, mes petits-enfants. Oui, c'est très beau. Alors, on sent bien notre Seigneur, mes petits-enfants. filioli. Il y a des petits mots très, 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 très doux comme ça, très, très beaux, très tendres, hein, qui annoncent justement, qui manifestent la tendresse que notre Seigneur a pour ses apôtres, mes petits-enfants. Je ne suis plus avec vous que pour un peu de temps. Vous me chercherez. Mais je vous répète maintenant à vous-même ce que j'ai dit aux Juifs, où je vais, vous ne pouvez venir. Mais oui, là, il faut que j'aille tout seul. Hein. Et je vous donne, voilà, le grand commandement qu'il va reprendre un peu plus tard, un peu plus loin encore. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais je ne sais pas si vous avez, je pense, oui, quand même, que vous avez déjà un peu médité, réfléchi sur ces paroles, hein, qui sont des paroles graves de notre Seigneur, vous voyez, surtout en rapport avec le moment où il donne ce commandement nouveau. Hein. Il vient d'instituer l'Eucharistie, d'instituer la messe, d'instituer le sacerdoce. L'Eucharistie est le sacrement de la charité. Pas oublier, hein, l'Eucharistie, c'est le sacrement de la charité. C'est celui qui nous unit à Dieu par la charité, hein, Dieu qui est charité. Et c'est à ce moment-là, justement, que les apôtres viennent de communier. Ils sont pleins de grâce, si l'on peut dire, d'une certaine façon. Et c'est à ce moment-là que notre Seigneur donne ce commandement. Maintenant, vous pouvez rire, parce que maintenant, ils peuvent réaliser ce commandement. Et ce commandement est nouveau. Et qu'est-ce qu'il a de nouveau? Parce qu'on peut dire, bon, s'aimer les uns les autres, mais c'était déjà dans l'Ancien Testament. S'aimer les uns les autres, c'est pas nouveau, ça. Il n'y a rien de nouveau. Déjà, Dieu l'avait dit depuis très longtemps aux Juifs, ouais, dans l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh bien, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Voilà ce qu'il y a de nouveau. De la même façon que moi, je vous ai aimé. Et de la même façon que je vais vous aimer encore. Et il le dira un peu plus loin, eh bien, nul n'a de plus grand amour hein, que de donner sa vie pour celui qu'il aime. Voilà. Et voilà la façon dont nous devons nous aimer. La façon dont les chrétiens doivent s'aimer entre eux, être prêts à donner sa vie les uns pour les autres. Voilà. Et c'est quand même extraordinaire, c'est comme ça que Jésus-Christ nous a aimés, hein. Jésus-Christ va donner sa vie pour nous, ça veut dire qu'il nous préfère à lui. Ça veut dire qu'il nous préfère à lui. Il nous aime, nous, mais plus que lui-même, puisqu'il va donner sa vie pour nous. Il préfère mourir, lui, plutôt que nous nous mourions. Voilà ce dont le Fils de Dieu a été capable. Et voilà le commandement qu'il nous donne. Eh bien, faites comme moi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Apprenez, bien, voilà, à avoir parfois plus d'amour, plus de désir du bien des autres que pour vous-même. Un peu moins d'égoïsme et pensez un peu plus aux autres. Aimez davantage les autres. Et oui. Commandement. Et c'est cela qu'il a de nouveau, c'est sûr. Hein. Bien sûr. Ayez ce même amour les uns pour les autres. Et voilà, et précisément, et c'est ce qu'on disait des premiers chrétiens, et j'espère qu'on le dit aussi des chrétiens d'aujourd'hui. J'espère. Voilà le signe auquel tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, c'est la dilection que vous aurez les uns pour les autres. Voilà à quoi l'on reconnaît les disciples de Jésus-Christ, c'est précisément cet amour que nous avons les uns pour les autres. Cette bonté, cette patience, cette indulgence, cette prévenance que nous avons les uns pour les autres, au lieu de nous jalouser, de nous critiquer, de ceci, de cela, etc. Et non, le signe, voilà le signe. Le signe auquel on reconnaîtra que nous sommes disciples de Jésus-Christ, eh bien, si nous aimons les autres, si nous nous aimons les uns les autres comme il nous a aimés. Et c'est alors que le bon Simon-Pierre, eh bien, dit, mais enfin, où est-ce que vous allez? Donc il leur annonce qu'il va s'en aller. Mais Seigneur, reprit alors Simon-Pierre, où donc allez-vous? Quand même, ça ne va pas, ça. Rappelez-vous, toujours, il a voulu un petit peu protéger, défendre notre Seigneur. Non, non, pas possible, ça, je ne permettrai pas du cas. Où donc allez-vous? Où je vais? Répondit Jésus. Tu ne peux me suivre présentement. Mais plus tard, tu me suivras. Voilà. Une belle prophétie que Saint-Pierre n'a pas compris, sans doute, tout de suite, mais qu'il comprendra plus tard, très certainement, lorsque lui-même sera attaché sur la croix. Mais pour l'instant, tu ne peux pas me suivre. Mais plus tard, tu me suivras. Et pourquoi? Eh bon Saint-Pierre, et pourquoi? Ne puis-je vous suivre à présent? Je donnerai ma vie pour vous. Je donnerai ma vie pour vous. Avec vous, Seigneur, je suis prêt à aller et en prison et à la mort. Tu donneras ta vie pour moi. Oui, c'est vrai. mais bon, peut-être pas de la façon que tu prévois. Hein. Et pourtant, Pierre, en vérité, je te le dis, avant que le coq ait chanté deux fois, tu m'auras renié trois fois. Eh oui, tu es prêt à donner ta vie pour moi, et pourtant, bon, dans quelques instants, ben, ça sera moins brillant. Ta vie, tu la donneras, oui, mais plus tard, hein, plus tard, plus tard. Et cette belle parole encore de notre Seigneur à Pierre, hein, Simon, Simon. On apprend qu'il le prend un petit peu par le fond du cœur. Là, hein. Voici que Satan a demandé à vous passer au crible comme du froment. Hein, Satan a demandé à vous éprouver un petit peu, à vous passer au crible comme du froment. Hein. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, une fois converti, soutiens et affermis tes frères. Confirme tes frères dans la foi. Vous voyez, donc, parole un petit peu complexe là, de notre Seigneur, hein, notre Seigneur qui annonce à Saint-Pierre donc qu'ils vont être soumis à l'épreuve. Bon, que lui, Jésus-Christ, va prier, il prie même pour que sa foi ne défaille pas, mais que pourtant, bon, la foi ne défaillera pas sans doute, mais il y aura une défaillance. Saint-Pierre gardera la foi, attention, hein. Il reniera extérieurement, sans doute, mais pas intérieurement, il sait bien qui est Jésus, ça c'est clair, hein. Mais c'est un petit peu là. La crainte, le respect humain, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas vraiment le reniement profond, ce n'est pas une infidélité profonde, vous voyez. Mais il y aura donc une défaillance, vous voyez. Donc sa foi ne défaillera pas, mais c'est d'autres choses qui défailleront, vous voyez. Mais une fois converti, soutiens et affermis tes frères. Bon, au sujet de cet épisode de Saint-Pierre, hein, certains veulent toujours en tirer des conséquences peut-être un petit peu exagérées. Hein. Il faut se rappeler qu'à l'époque, là, à ce moment-là, Saint-Pierre n'est pas encore pape. Hein. Attention, hein. Il n'est pas encore pape. Hein. Saint-Pierre ne recevra le gouvernement de l'Église hein, qu'après la résurrection, hein, au bord du lac de Tibériade, hein, après sa triple proclamation d'amour. Hein. Pierre, m'aimes-tu ? Vous savez bien que je vous aime. Payez mes agneaux. Voilà. C'est à ce moment-là que Saint-Pierre reçoit effectivement le souverain pontificat. Pour l'instant, il ne l'a pas encore. Hein. Il n'a pas encore, donc il ne faut pas se scandaliser bon, des défaillances de Saint-Pierre. Hein. Il n'était pas encore tout à fait confirmé en grâce. Hein. Et Jésus alors dit à tous, là aussi, un petit passage, je ne sais pas s'il est très très connu. Hein. Parce qu'il y a une sorte de petite... on peut mettre une petite... contradiction, si l'on veut, entre ce que dit notre Seigneur, là, et puis ce qu'il a dit un peu plus tôt, il y a quelque temps, à ses apôtres. Hein. Et Jésus dit à tous, « Quand je vous ai envoyé sans bourre, sans sac et sans chaussures, avez-vous manqué de quelque chose ?»« De rien. » Et c'est vrai, tout a bien marché. Bon, et bien maintenant. Oui, parce qu'il va les quitter. Il va les quitter, il ne sera plus là, oui, du moins concrètement, physiquement, avec eux. Mais bien maintenant, reprit Jésus, « Que celui qui a une bourse la prenne. » Qu'ils la prennent maintenant, vous voyez, on change un petit peu la méthode. Avant, la méthode était, bon, effectivement, partez comme ça, vous voyez, mais maintenant, mais prenez une bourse et prenez votre sac. Et celui qui n'a point d'épée, attention les antimilitaristes, et que celui qui n'a point d'épée vende sa tunique pour en acheter une. Armez-vous, en gros. Voyez. Eh oui, que celui qui n'a point d'épée, mais qu'il vende sa tunique pour acheter une épée. Eh oui. Mais parce que, ben voilà, il y aura à se défendre, peut-être il y aura des combats à mener. Ouais. Car je vous le dis, il faut encore que se réalisent en moi les paroles de l'Écriture, il a été mis au rang des scélérats. Or, les oracles qui me regardent seront bientôt accomplis. Et ils répondirent, Seigneur, voici deux épées. Ça suffit. Ça suffit deux. Bon, voilà. Alors là aussi, bon, je ne me lancerai pas dans les exégèses de ce verset, parce que là c'est assez complexe. Hein. Mais en tout cas, généralement, vous voyez, les commentateurs de cette petite phrase-là, voici deux épées, c'est assez, voient là-dedans justement la figure, vous voyez, de ces deux pouvoirs, hein, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, qui appartiennent à l'Église tous les deux. L'Église a le pouvoir spirituel, bien sûr, mais elle a également le pouvoir temporel, c'est les deux glaives, la théorie des deux glaives, vous voyez. Alors le pouvoir temporel, donc le deuxième glaive, l'Église le possède, mais elle ne l'exerce pas elle-même. Elle le remet à quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est ce glaive, mais il lui appartient. Vous voyez, il lui appartient, mais elle le confie au pouvoir temporel confié aux laïcs. Donc, si vous voulez, donc c'est aux laïcs à gouverner la cité, à gouverner les choses humaines. Mais l'Église pourrait très bien, elle ne l'a jamais fait, n'ayez pas peur, je ne pense pas qu'elle le fasse un jour, pas plus que notre Seigneur, ouais. Mais ce glaive lui appartient. Elle le confie au gouvernement, à l'État, etc. Et c'est là, justement, bien, je dirais que s'enracine justement cette doctrine très simple, eh bien, que l'État, le gouvernement, quel qu'il soit, gouverne au nom de Dieu, doit gouverner au nom de Jésus-Christ. Ce glaive qu'il manie dans les affaires du monde, il appartient à Dieu, il appartient à Jésus, il appartient à l'Église. Donc il faut l'exercer, il faut le gouverner en harmonie avec l'Église. Et non pas contre l'Église, certainement pas, pensez donc. Voilà, et puis ensuite, eh bien, notre Seigneur continue son discours aux apôtres. Et un long discours, là, dans lequel eh bien, il cherche simplement à les consoler un petit peu, oui, bon, puisqu'il leur a annoncé sa séparation. Mais il cherche à les consoler, à les rassurer, en leur donnant, en leur indiquant les moyens, justement, bien, de rester avec lui. Et le premier moyen qu'il leur donne, il ne faut jamais l'oublier, eh bien, c'est la foi. Et pas l'amour. Pas l'amour. L'amour viendra, mais après. Et d'abord, c'est la foi. Et oui, ça, c'est fondamental, ça. Hein? Oui, c'est là, justement, ces consignes que notre Seigneur donne aux apôtres, que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, eh bien, croyez aussi en moi. Voilà. Voilà la façon, je dirais, de rester dans la paix, de rester confiant, hein, de ne pas être seul. Croyez en moi. Bon, je ne vais pas tout vous lire, hein. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. C'est magnifique, ça. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est magnifique, ça. Voilà, je m'en vais, mais je reviendrai. Et je vous emmènerai là où je vais. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, garder la foi. Gardez la foi. Restez-moi unis par la foi. Et saint Thomas, de temps en temps, il y a un apôtre qui intervient comme ça. Saint Thomas, qui dit, mais Seigneur, nous ne savons pas où vous allez. Comment pourrions-nous en savoir le chemin? Comment on fera? Etc. Belle réponse de notre Seigneur, vous connaissez. Je suis la voie, la vérité et la vie. Je suis la voie, la vérité et la vie. Et personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Et bientôt, vous le connaîtrez et vous l'avez déjà vu. Oh. Alors, là, c'est Philippe qui intervient, saint Philippe. Mais Seigneur, montrez-nous le Père et ça nous suffit. Philippe, qui me voit, voit le Père. Et il faut tout leur expliquer à ces apôtres. Hein. Et à nous aussi. Hein. C'est évident. Et oui. Il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne me connaissez pas. Philippe, celui qui me voit, voit aussi le Père. Comment peux-tu dire, montrez-nous le Père? Ouais. Etc. Bon, il faut avancer un petit peu, sinon... On va aller lire un petit peu tout ça. Ouais. Donc d'abord, c'est ce premier moyen, ouais, de rester unis à notre Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Ouais, bien, c'est la foi. Hein, croyez en moi. Ouais, je vous le dis, celui qui croit en moi, fera lui-même les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais auprès du Père. Oui, il fera même encore des choses plus grandes que ce que j'ai fait. Eh oui, c'est cette promesse donnée aux apôtres et à l'Église, de pouvoir réaliser des miracles encore plus grands peut-être que ceux que notre Seigneur a réalisés. Ce que Jésus-Christ n'a pas fait, bien, c'est l'Église qui va le faire. Et dit, cette conversion des nations, cette conversion du monde entier, ce n'est pas Jésus-Christ qui l'a fait. Bon, c'est lui qui va le faire sans doute, mais par l'Église. Et donc, celui qui croit en moi fera lui-même les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Mais la condition, c'est la foi. C'est la foi. Et ensuite, alors bien sûr, ça c'est clair, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas aimer, ça c'est bien évident, hein, puisque c'est même le commandement nouveau que nous laisse notre Seigneur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ça, c'est vrai, le moyen justement d'aimer, eh bien, c'est de garder les commandements, c'est de faire la volonté de Dieu, de faire la volonté de Jésus-Christ. Hein. Donc, rester unis à Jésus-Christ par la foi, lui rester unis également par la charité, et c'est ces consolations, hein, que notre Seigneur laisse aux apôtres, hein. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez, etc. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai aussi, et je me manifesterai à lui. Et encore un apôtre qui intervient. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Jude, cette fois, c'est Jude. Et Judas, non pas l'Iscariote, attention, lui il est parti, l'autre Jude. Mais Seigneur, d'où vient que vous vous manifesterez à nous, et non pas au monde? Et pourquoi Jésus-Christ ne se manifeste-t-il pas au monde? Parce que le monde ne l'aime pas. Et Jésus-Christ ne peut se manifester qu'à ceux qui l'aiment. Cette phrase qui est magnifique, magnifique, qui devrait nous je ne sais pas quoi faire, nous retourner le cœur, hein, des choses comme ça. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons en lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est extraordinaire, une promesse pareille. Ouais. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Mon Père l'aimera. C'est déjà pas mal. Mais en plus, eh bien, nous viendrons en lui, et nous ferons en lui notre demeure. Et qu'est-ce que ça veut dire, faire sa demeure en quelqu'un? Qu'est-ce que ça veut dire, demeurer quelque part? C'est s'installer quelque part et s'y trouver bien. Voilà. Y faire sa demeure. Eh bien, voilà. Si nous aimons Jésus-Christ, la Sainte Trinité viendra en nous faire sa demeure. Là, c'est une des sources scripturaires, justement, de ce dogme de foi, de ce qu'on appelle l'inhabitation, hein, l'habitation de la Sainte Trinité dans l'âme des justes. Vous voyez, quelqu'un qui est en état de grâce, eh bien, est la demeure de la Sainte Trinité, le temple de la Sainte Trinité. Mon âme est la demeure de la Trinité Sainte. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous allez chercher ailleurs? Qu'est-ce qu'on va chercher ailleurs? On va chercher le bonheur, je ne sais pas où, à droite, à gauche, alors qu'il est là. Ah, on a la tête dure. Hein. Et oui. Et quel est le fruit de cette union? Oui, l'union par la charité, l'union par la foi, bien sûr. L'union par la charité. Quel est le fruit de cette union? Ben, c'est la paix. C'est la paix. Et c'est précisément ce que nous annonce notre Seigneur, ce qu'il annonce aux apôtres. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeurais avec vous. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, donc promesse, ouais, de l'envoi du Saint-Esprit, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Et ce n'est pas comme le monde la donne que je vous la donne. Là aussi, hein. Quelle est la paix que nous laisse Jésus-Christ? Mais c'est sa propre paix, c'est la paix de l'éternité, c'est la paix de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, la paix de Dieu. Dieu qui est à l'abri de toutes les misères, de toutes les souffrances. Personne ne peut rien lui faire, personne ne peut troubler la paix de Dieu. Eh bien, c'est cette paix que Jésus-Christ nous laisse. C'est cette paix qu'il nous donne. Alors pourquoi aller la chercher ailleurs? Qu'est-ce qu'on va chercher la paix ailleurs? La paix n'est qu'en Dieu, la paix n'est qu'en Jésus-Christ. Il y a une foule de choses maintenant, vous savez, lisez ces chapitres de Saint Jean, 13, 14, 15, 16, 17, c'est magnifique ça. Voilà, et je ne vous parlerai plus guère désormais, car le prince de ce monde vient, et il n'a aucun droit sur moi. Ouais, toujours, voilà, l'heure de la séparation approche, hein, le prince de ce monde vient, il n'a aucun droit sur moi, mais il vient afin que le monde connaisse, sache que j'aime le Père, et que je fais ce que le Père m'a ordonné. Voilà, il vient, ouais, il vient pour que le monde sache combien j'aime mon Père, pour manifester justement au monde l'amour que j'ai pour mon Père. Je veux glorifier mon Père, et pour ça, bien, si on peut dire, j'ai besoin du prince du monde, qu'il vienne justement s'attaquer à moi pour que je puisse faire resplendir un petit peu cet amour que j'ai pour mon Père. Ouais. Levez-vous et sortons d'ici. Voilà, et à ce moment-là, sans doute, eh bien, notre Seigneur quitte le Cénacle, suivi des apôtres, et il part, oui, pour regarder un petit peu, non? Le Cénacle est là. Le Mont des Oliviers est là. Donc, vous sortez, là. Et puis allez là-bas, vers le Mont des Oliviers, pour passer le torrent du Cédron. Et donc, pendant ce petit trajet, hein, notre Seigneur va continuer ses discours. Il y a d'autres encore paroles très très belles de notre Seigneur, hein, sur le trajet. Et première parole, c'est tout le chapitre 15, là, de Saint Jean. C'est cette parabole de la vigne. Oui, sans doute. Oui, ça, c'était la méthode constante de notre Seigneur, hein, de prendre des images, des comparaisons dans ce qu'il voyait. Rappelez-vous, les champs, les blés qui ondulent, etc. Bien, là, notre Seigneur, sans doute, passe peut-être au milieu de vignes ou à côté de vignes, et il prend cette image de la vigne, justement, pour manifester, pour illustrer aux apôtres, eh bien, quelle est la qualité de cette union qu'ils doivent avoir avec lui. Je suis la vigne, hein. Je suis la vraie vigne, mon père est le vigneron. Tout sarment qui ne porte pas de fruit en moi, il le retranche. Donc voilà un petit peu, je dirais, cette communauté de vie que nous devons avoir avec Jésus-Christ. Il est la vigne et nous sommes les sarments. Et c'est la même vie, c'est la même sève. Oui, ce n'est pas une autre sève qui fait vivre le cep, qui fait vivre les sarments, c'est le même. C'est la même sève qui circule, hein, vous connaissez mieux que moi, la vigne, moi, je ne suis pas très très doué pour ça, mais enfin voilà, hein, qui circule en tout cas, c'est la même sève, ce n'est pas une sève différente, c'est bien pour nous aussi. Oui, l'union qui existe entre les baptisés et notre Seigneur, eh bien, c'est la grâce, oui, c'est la vie de la grâce, et la grâce, c'est la vie de Jésus-Christ, c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu qui est celle de Jésus-Christ qui nous est communiquée. Et c'est cette vie sans laquelle nous ne pouvons rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sine me nihil potestis facere. Rien, nihil. Nihil, c'est nihil. Rien, c'est rien. C'est ce que saint Paul nous dira dans son épître aux Corinthiens, chapitre 13. Celui qui n'a pas la charité, si je n'ai pas la charité, nihil sum, je ne suis rien. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, ça ne veut pas dire que je ne suis plus rien du tout, mais dans l'ordre de la grâce, dans l'ordre surnaturel, dans l'ordre du salut, etc., je ne suis plus rien, je ne sers plus à rien. Je suis un sarment sec, mort. Et qu'est-ce qu'on en fait? Des sarments secs, morts, on les brûle. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre avec ça? C'est fini, terminé. Oui. Eh oui. Et donc cette comparaison de la vigne, alors là que nous pourrions développer, hein, que vous pouvez approfondir, aller lire un petit peu, notre Seigneur leur rappelle justement ce commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Oui. Et je dirais à la limite, c'est pas difficile, puisque c'est sa vie qui circule dans nos âmes, oui, puisque c'est son amour qui circule dans nos âmes. Oui. Et pourquoi c'est si difficile justement d'aimer comme lui? Oui, puisqu'il y a cette communauté de vie, cette communauté d'amour entre lui et nous. Pourquoi est-ce que nous avons tant de mal à aimer les autres comme lui-même nous a aimés? Et parce que nous laissons un peu trop parler nos natures, un peu trop parler tout le péché de notre nature. Et oui. Et ensuite, eh bien, il les avertit des épreuves à venir, des persécutions. Mais il ne faut pas nous étonner, vous voyez, tout est là. Hein. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Alors, on est là à pleurnicher parce qu'on nous fait des misères à droite, à gauche, déjà beaucoup, des ennuis tous les côtés, et puis bon. Mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, ça dure depuis 2000 ans, etc. Et ça durera encore longtemps, sans doute. Hein, bon. Mais il ne faut pas nous étonner. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Et si le monde nous hait, il a haï avant nous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui serait à lui. C'est là le danger, attention. Hein. Si le monde nous aime, si le monde commence à vous encenser, méfiez-vous, hein. Méfiez-vous. Et pas... Enfin, je vous verrai bien, mais enfin, je ne sais pas si ça arrive, mais enfin, bon. En tout cas, ne cherchez pas à être encensé du monde. Ben, ça serait dangereux, hein. Vous prendriez la mauvaise piste, là, c'est sûr. Mais précisément parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Le serviteur n'est pas plus grand que mon maître, que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Eh oui. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Alors, ne vous étonnez pas. C'est pas facile, hein, d'être chrétien aujourd'hui, c'est évident, ça. Mais ça, on le sait bien, vous le savez bien, ça c'est sûr, c'est pas facile, c'est difficile. Et de moi, c'est héroïque, c'est vrai, ça. Et on est persécuté, on se moque de nous, on nous traite de tous les noms, etc. Coincé, intégriste, fou, nazi, je vois tout ça. Mais c'est pas nouveau. Regardez de quoi on a traité notre Seigneur. De quoi on l'a traité. C'est épouvantable, toutes les calomnies qu'on a répandues sur lui. Alors, bon. Voilà. Hein. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. On est aussi bien traité que lui. C'est formidable, ça. Eh oui. Donc il leur annonce un peu ces épreuves, mais en même temps, bien sûr, il les rassure un petit peu, hein, parce que ce n'est pas tout d'annoncer les épreuves et les persécutions. Il faut dire, mais attention, hein, vous aurez tous les moyens nécessaires eh bien, pour tenir justement le paraclet, la promesse du paraclet. Lorsque le paraclet que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, sera venu, il rendra témoignage de moi, etc. Il sera là précisément pour vous aider. Et il annonce enfin à ses apôtres encore, eh bien, je dirais, toutes ces joies et ce triomphe futur, oui, les persécutions. Il les rassure avec l'envoi, la promesse du paraclet pour tenir dans ces épreuves, dans ces persécutions. Et puis, il leur laisse entrevoir justement les joies et les triomphes futurs. Oui. Il leur redit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, mais encore un peu de temps et vous me verrez parce que je m'en vais auprès du Père. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, vous gémirez, et le monde se réjouira. Vous, vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Eh oui, votre tristesse sera changée en joie. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ravira votre joie. Ah oui, pour l'instant, vous êtes dans la tristesse, et c'est peut-être un petit peu notre cas, nous aussi, mais un jour, il reviendra. Il reviendra et il nous communiquera sa joie. Et ce jour-là, sa joie, personne ne pourra nous la ravir. Ça sera fini. Ça sera la joie éternelle. Alors, pas avoir peur. Oui. Donc, il développe un peu son discours. Et là, on a une très belle justement, expression de foi des apôtres. Les apôtres qui, malgré tout, oui, on commence un petit peu à être remis. Et c'est sûr, on comprend que tout ça a dû un petit peu les secouer, vous voyez. Et ses disciples lui dirent, voici que maintenant vous parlez ouvertement et vous ne dites plus de paraboles. Et maintenant, nous savons que vous savez toutes choses et que vous n'avez pas besoin que personne vous interroge. Voilà pourquoi nous croyons que vous êtes sortis de Dieu. Bel acte de foi. Nous croyons que vous êtes sortis de Dieu. Oui. Vous croyez à présent, leur dit notre Seigneur. Et voici que l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés pourtant. Vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Ouais. C'est vrai, vous croyez avec moi, mais pourtant vous me laisserez seul. Mais moi, je ne suis jamais seul, car le Père est avec moi. Et je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix. Dans le monde, pardon. Dans le monde, vous aurez des afflictions. Et là, c'est cette phrase magnifique, ça. Mais ayez confiance. J'ai vaincu le monde. Voilà. Eh oui. Voilà. Ça, c'est magnifique cette phrase. Hein. Ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Confidite ego vici mundum. Oui. Il n'est pas encore monté au calvaire et pourtant il leur dit qu'il a déjà vaincu le monde. Eh oui. Bien sûr, puisqu'il est Dieu. Alors ayez confiance, il a vaincu le monde. Courage, on les aura. Hein? C'est dans l'évangile, quand je vous le dis, vous ne voulez pas me croire. C'est terrible ça. Hein? C'est ça. Bah, ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Courage, on les aura, c'est la même chose. C'est même mieux, c'est courage, on les a eus. C'est encore mieux, ça, oui. Oui, c'est sûr. Ils sont terribles, il faut tout leur expliquer. Ah, là, là, bon. Voilà, et ça, c'est pratiquement, oui, pratiquement la conclusion. La conclusion de ce grand discours à ses apôtres. Et la conclusion est magnifique, c'est sûr, c'est sublime, ça. Ayez confiance, j'ai vaincu le monde. Allez, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et alors ensuite, c'est ce passage qui est magnifique, hein, c'est tout le chapitre 17, bon, nous n'aurons pas le temps de le commenter, de toute façon il faudrait une éternité pour le commenter, hein, ce chapitre 17, qui est la prière de Jésus-Christ, la grande prière à Jésus-Christ, de Jésus-Christ, pardon, à son Père. Hein. Ayant dit ces choses, Jésus leva les yeux au ciel. Bon, alors où est-il? Bon, il est sur la route, sans doute. Là, peut-être s'arrête-t-il à ce moment-là, bon, face à la campagne, je ne sais trop. Et notre Seigneur s'arrête et puis, voilà, crie vers son Père. Hein. Père, l'heure est venue. Glorifiez votre Fils, afin que votre Fils vous glorifie. Bon, puis je vous laisse lire la suite. Hein. Vous irez voir, mais c'est très... Cette prière est extraordinaire. Hein. Il faut la lire, hein, ça. Il faut lire ça, il faut méditer cela. C'est extraordinaire. Vraiment, toute l'âme de Jésus-Christ qui s'épanche, là, oui, qui se livre, qui se dévoile à nous, hein. En gros, bien sûr, il est facile de voir un peu dans cette prière de Jésus-Christ trois grandes demandes, si on peut dire. D'abord, il prie pour lui. Hein, Père, glorifiez-moi. Il dit, rendez-moi cette gloire que j'avais dans l'éternité. Rendez-moi cette gloire bien pour que les hommes sachent qui vous êtes et qui je suis. Oui, pour que la foi, précisément, puisse bien, se répandre sur la terre. Oui. Glorifiez votre Fils afin que votre Fils vous glorifie. En donnant, selon la puissance que vous lui avez accordée sur toute chair, la vie éternelle à tous ceux que vous lui avez donnés. Voilà pourquoi il est venu, pour donner la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent, vous, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Voilà. C'est pourquoi il veut être glorifié, afin que les hommes le connaissent. Hein. Qu'ils sachent qu'il est le Fils de Dieu. Hein. Parce que c'est ça, la vie éternelle. La vie éternelle, ça, retenez bien ça dans votre tête. Là. La vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent, vous, le seul vrai Dieu. Attention, hein, le seul vrai Dieu. Là, c'est, il n'y a pas plus gentil œcuménique, ça. Hein. Le seul vrai Dieu. Bon, c'est clair. Hein. C'est Jésus-Christ qui le dit. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu, c'est le Père. Il n'y en a pas d'autre. Bon. Donc la vie éternelle, c'est qu'ils vous connaissent. Et celui qui ne croit pas dans le seul vrai Dieu, il n'y a pas de vie éternelle pour lui. Et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Voilà. En dehors de ça, il n'y a pas de vie éternelle possible. Alors, bon. Donc, première demande de Jésus-Christ, justement, qu'il soit glorifié. Et puis, deuxième prière, eh bien, le Christ prie pour ses apôtres. Hein, il prie pour ceux qui sont ici, là, qui l'entourent. Hein. Il prie pour ses apôtres à qui il a enseigné la vérité, il a rendu témoignage à la vérité. Et il demande à son Père eh bien, qu'il leur accorde l'unité. Ouais, c'est de même qu'il demandera, ce sera la troisième phase de sa prière, et quand il priera pour tous les chrétiens à l'avenir, ouais, ensuite il prie d'abord pour lui, ensuite il prie pour les apôtres qui sont là, puis ensuite pour tous les chrétiens, pour tous ceux qui croiront en lui. Et que demande-t-il à son Père pour eux? L'unité. Mais attention, hein, l'unité, ce n'est pas l'unité entre eux. Ce n'est pas l'unité entre eux, c'est l'unité avec lui. Entre eux, d'accord, mais avec lui. Voilà l'unité que demande Jésus-Christ. Et comment se fait cette unité entre les baptisés, entre les apôtres, entre les chrétiens? Elle se fait par l'unité avec Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que nous réalisons l'unité. Ce n'est pas en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'unité possible. Et Jésus-Christ ne demande surtout pas cette unité. Ce n'est pas celle-là qu'il demande, ce n'est pas l'unité en dehors de Jésus-Christ, ce n'est pas l'unité en dehors de la foi en Jésus-Christ, c'est l'unité dans, par la foi en Jésus-Christ.